Le premier journal avec vous, Florence Cohen. Bonjour Florence.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. On commence ce journal par les Jeux Olympiques de Tokyo, les résultats de la nuit. D'abord cette déception, Corinne Boulou, il n'y a pas eu de médaille pour Johan Diniz dans le 50 km marche.
Oui, ça restera décidément une histoire contrariée entre le marcheur Johan Diniz et les Jeux Olympiques. C'est d'ailleurs la seule médaille qui manque au fabuleux palmarès du Rémois de 43 ans. À Tokyo cette nuit, Johan Diniz a abandonné le 50 km marche à mi-parcours après 2h15 d'efforts sous la chaleur de Sapporo dans le nord du Japon. C'était la quatrième et dernière participation aux Jeux Olympiques du Français qui, après un abandon à Tokyo en 2008, une disqualification à Londres en 2012, puis 8e à Rio en 2016, mais vaincu par un mal de ventre alors qu'il menait l'épreuve, et bien ce matin, il a abandonné comme à Pékin en 2008, rompu et vaincu par son corps. C'est ce qu'il a expliqué peu de temps après au micro de France Télévisions.
C'est la compétition de trop, quoi. Physiquement, j'étais pas bien. Bah, le corps, il voulait peut-être plus, quoi. Voilà, quoi. J'avais mal au dos, j'avais mal au bassin, j'avais mal aux adducteurs. J'ai peut-être poussé une année ou deux années de trop, et puis. Si je le paye cash aujourd'hui. Donc ben, tant pis, c'est comme ça. Malheureusement, je n'écrirai pas une page de l'athlée au niveau olympique, mais je repars avec un titre de champion du monde, de vice-champion du monde, des titres de champion d'Europe. Et puis voilà, une belle carrière. L'athlétisme m'aura apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui doit être déçu. Malheureusement, je n'ai pas été à la hauteur aujourd'hui pour vous. Puis ben, pour ça, je m'excuse vraiment. Vraiment, je m'excuse pour tout. En tout cas, merci pour tout de m'avoir soutenu à tous. Et puis, ben, durant ces 15 ans, et puis bah, à bientôt, et puis j'espère vous revoir.
Voilà, on le reverra, effectivement, hein. Mais autrement, Johan Diniz, effectivement, qui souhaite maintenant transmettre aux jeunes marcheurs.
Il n'a pas à s'excuser, hein, parce qu'il a une belle
carrière. Mais il est comme ça, Johan, évidemment, champion du monde, il le disait, hein, champion d'Europe à multiples reprises, et détenteur du record du monde, hein, du 50 km marche, qui ne sera plus, d'ailleurs, une épreuve olympique à l'avenir. On suivra aujourd'hui encore, du côté français, voilà, du sport co, notamment, après la réussite des volleyeurs, handballeurs, basketteurs, effectivement masculins. On va suivre les filles. Voilà, aujourd'hui, 10h, il y aura un France-Suède en hand féminin avec les vice-championnes olympiques de Rio. Et puis, il y aura un France-Japon. Alors, bon, à huis clos. Ouais. Mais c'est vrai que forcément, au Japon, on s'y intéresse un petit peu plus.
Même, ouais.
Voilà. Donc, pour aller chercher une place en finale, tout comme les garçons. Et puis, on suivra aussi le pentathlon moderne avec deux Françaises en lice pour pourquoi pas aller chercher aussi un podium aujourd'hui.
Pourquoi pas, on l'espère. Merci beaucoup Corinne Boulou. C'est l'autre information sportive de cette matinale et c'est un coup de tonnerre dans le monde du football. Après plus de 20 ans de destinée commune, le divorce est consommé entre Lionel Messi et le FC Barcelone. L'Argentin, 6 fois Ballon d'Or, quitte son club. Il est donc libre à 34 ans de signer dans une autre formation. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain n'a jamais caché son intérêt pour cette star. Hein. Messi qui a remporté 35 trophées, dont 4 Ligues des Champions.
6h04 sur Europe 1. Le Conseil constitutionnel valide donc l'extension du pass sanitaire aux cafés, restaurants, trains, avions et hôpitaux. Elle entrera en vigueur lundi. Validée aussi l'obligation vaccinale pour les soignants.
Supprimer en revanche l'isolement obligatoire des personnes contaminées, jugées disproportionnées. Supprimer aussi la rupture anticipée du contrat des CDD ou des intérimaires qui ne présentent pas de passe sanitaire dans un établissement qui reçoit du public, Olivier Samin.
Oui, il ne peut pas y avoir de différence de traitement entre les salariés en CDI et leurs collègues en CDD ou en mission d'intérim. Voilà ce que disent les 9 sages. Quelle que soit la nature de leur contrat, ils sont tous exposés au même risque de contamination et de transmission du virus. On ne peut pas, du coup, sanctionner les uns plus que les autres. La sanction en question, c'était la rupture du contrat de travail lorsque le salarié ne présente pas son passe sanitaire alors que son emploi l'y oblige. Pour les salariés en CDI, la rupture avait disparu lors de l'examen du texte au Parlement. Mais elle avait été maintenue pour les salariés en CDD ou en mission d'intérim. Le Conseil constitutionnel remet donc tout le monde à égalité. Mais les syndicats ne se satisfont pas totalement de cette décision. Car à défaut d'être rompus, les contrats de travail, CDI ou CDD, pourront être suspendus et le salaire avec. Le secrétaire général de FO, Yves Verrier, y voit le maintien d'une forme de menace.
La possibilité d'une suspension du contrat de travail avec suspension de rémunération, ça demeure une sanction lourde pour les salariés et c'est source de tension. La question n'est pas celle du vaccin. Pour FO, il faut absolument qu'un maximum de personnes, de salariés en particulier, se vaccinent. Mais il faut que cela se fasse tranquillement, sans inquiétude. Et je ne crois pas que menacer soit la bonne façon de faire.
La règle, en tout cas, sera la même à compter du 15 septembre pour les personnels des établissements de santé qui ne seront pas vaccinés. Ils s'exposeront eux aussi à une suspension de leur contrat de travail et du versement de leur salaire.
Juste après la décision, une manifestation a eu lieu aux abords du Conseil constitutionnel à Paris. Quelques centaines de manifestants, selon l'AFP, des appels à défiler dans toute la France également demain.
Et les tentatives de fraude au pass sanitaire se poursuivent. Après Lyon et Grenoble, c'est un centre de vaccination de Bordeaux qui est concerné.
Deux jeunes femmes de 18 et 20 ans, des vacataires du centre, ont été interpellées pour avoir délivré de faux certificats de vaccination, Marion Dubreuil.
Oui, les deux contractuels émettaient les fausses attestations depuis les ordinateurs du vaccinodrome avec la carte vitale du bénéficiaire. Elles remettaient ensuite le précieux sésame à l'occasion d'un rendez-vous en centre-ville. C'est leur comportement suspect qui a alerté l'attention de leurs collègues, comme nous l'explique la commissaire divisionnaire Céline Plumaille, chef de la sûreté départementale en Gironde.
Les perquisitions qui ont été menées à leur domicile ont permis de découvrir des attestations qu'elles avaient délivrées au nom de tiers. Une des deux personnes a vraiment bénéficier en fait de rémunération contre la remise des attestations. Pour ce qui concerne la deuxième personne, elle n'a pas reçu de rémunération et a entre guillemets voulu rendre service. En tout cas, c'est ce qu'elle a déclaré. C'était vraiment sur le mode du bouche à oreille, hein, entre guillemets, pour ce qui concerne le recrutement des bénéficiaires des attestations Covid.
Les deux jeunes femmes seront jugées en janvier prochain pour faux et usage de faux. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Le parquet de Bordeaux entend également poursuivre les bénéficiaires de ce trafic pour détention d'un faux document.
Plus de 26 000 nouveaux cas de Covid hier, 52 décès, 8 200 malades à l'hôpital, dont 1 400 en soins critiques. En Italie, le pass sanitaire est obligatoire à partir d'aujourd'hui pour entrer dans les salles de cinéma, les musées, les salles de sport et à l'intérieur des restaurants. Et il va être obligatoire aussi pour les enseignants et les usagers des transports publics longue distance.
Europe 1, il est 6h08, la suite du journal de Florence Cohen. La rentrée commence dans moins d'un mois pour les étudiants. Ils seront plus de 2 800 000 cette
et
année.
Et comme tous les ans, c'est la course à la recherche de logement pour la majorité d'entre eux. Une recherche qui s'apparente à un parcours du combattant au CNTR.
Son entrée dans les études supérieures à Bordeaux, Jade l'attendait avec impatience. Mais comme beaucoup de ses amis, le rêve d'avoir son propre logement s'est confronté à la réalité du marché. En plus d'un mois de recherche, impossible de trouver une colocation avec son budget de 450 euros.
Comme je suis boursière, bah, j'ai pas notamment un énorme budget. J'ai pas eu d'autre choix en fait, de m'installer qu'avec mon copain parce que le budget s'est divisé par deux. En fait. En plus, je voyais que bah, ça approchait la rentrée. J'avais trop peur juste de me retrouver simplement à la rue, de pas pouvoir suivre correctement mes études à la rentrée.
Une angoisse amplifiée par le Covid. Cette année, de nombreux étudiants ne peuvent pas compter sur le salaire d'un petit boulot, explique Paul Maillot, président de la Fédération des associations générales étudiantes.
Le fait que les jeunes n'aient pas pu travailler pendant la période estivale va forcément impacter la question du logement, puisque c'est le premier poste de dépense chez les jeunes. Même si on a quand même la réouverture de certains lieux où des jeunes peuvent travailler, c'est pas la grande majorité.
Une situation compliquée, et cela ne devrait pas s'arranger en septembre à cause du flou autour de la rentrée sanitaire, selon Marianne Offray. Elle est directrice de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes.
Est-ce que oui ou non, les étudiants vont prendre le risque de louer un logement alors qu'ils ne savent même pas si la quatrième vague changera l'organisation des cours? Ça va être une rentrée très particulière en ce sens-là.
Pour elle, plus que jamais, la solution ce serait de multiplier les logements sociaux destinés aux jeunes avec un loyer fixe pour les petits budgets.
Une randonneuse de 64 ans a fait une chute mortelle hier sur la commune d'Ugine en Savoie. Elle marchait en tête d'un groupe lorsqu'elle a trébuché sur un chemin escarpé et a fait une chute de 300 mètres. Toujours en Savoie, 3 morts et 1 blessé grave dans le crash d'un avion de tourisme qui avait décollé un peu plus tôt d'Annecy. L'appareil a peut-être heurté des arbres. Il a pris feu après avoir touché le sol.
Cela fait 5 jours maintenant qu'ils sont bloqués en mer. Plus de 550 migrants secourus en Méditerranée attendent à bord de l'Ocean Viking, ce navire de l'ONG SOS Méditerranée.
Ils sont au large de l'Italie et attendent qu'un port sûr accepte de les accueillir pour pouvoir débarquer. Malte a déjà refusé et la situation à bord devient particulièrement inquiétante. Écoutez Fabienne Lassalle, la directrice adjointe de SOS Méditerranée.
Ces personnes qui ont vécu l'horreur de Libye, parce qu'on sait qu'elles viennent toutes de Libye, elles ont traversé la Méditerranée dans des conditions que vous pouvez imaginer, certains sont restés jusqu'à 3 jours en mer. Et là, il y a cette anxiété qui monte, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas débarquer? Est-ce que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va retourner en Libye? La détresse psychologique, elle fait des ravages absolument terribles. À tout instant, on peut imaginer qu'on puisse perdre le contrôle de cette foule, parce qu'on parle de 550 personnes, et il n'y a tout simplement pas de réponse à cette situation. Elle est absolument anormale, elle est complètement contraire au droit maritime. Évidemment, on en appelle à l'ensemble des États européens pour organiser les débarquements et organiser la relocalisation des rescapés, que ce soit en Italie ou à Malte ou ailleurs.
Avec Laura Tautchanoff pour ses propos de Fabienne Lassalle, recueillis pour Europe 1. C'est la plus grosse saisie de drogue jamais réalisée par les gardes-côtes américains. Plus de 27 tonnes de cocaïne et de cannabis ont été interceptées au nord de Miami. Valeur estimée de la drogue, 1,4 milliard de dollars.
Ça fait rêver. L'été des festivals se poursuit en France pour la plus grande joie du public. Et l'un d'eux fait son grand retour ce soir. Ah, j'ai deviné de quoi il s'agit.
Alors, c'est
le Festival Interceltique de Lorient.
Exactement. Et ce que vous entendez, c'était il y a 2 ans. Hein. Les organisateurs devaient célébrer la 50e édition. Une édition repoussée, bien sûr, à cause de la crise sanitaire. 2 ans plus tard, les amateurs de culture celte vont enfin pouvoir se réunir à partir d'aujourd'hui. Et pour 10 jours, Nicolas Feldman.
Pour les Lorientais, c'est un événement à ne pas manquer. C'est un des piliers de la ville, puisqu'on se revendique et on est la capitale interceltique.
En 10 ans, Yoann, pur produit celte, n'a jamais manqué une seule édition du festival. L'attente fut longue, mais ce soir, c'est l'heure des retrouvailles.
Ça va avoir une saveur particulière du fait qu'on en ait été privé l'année dernière, ce qui a été un grand déchirement. Et de le retrouver cette année, c'est une joie pour tous les Lorientais et ça permet de découvrir aussi cette culture pas assez mise en avant.
Pour cette 50e édition, les organisateurs ont dû alléger le programme. Pas de grande parade en costume dans les rues de Lorient cette année. Les concerts seront réservés aux seuls détenteurs du pass sanitaire. Quant aux délégations celtes venues d'Irlande, d'Écosse ou des Pays-Bas, elles ne seront représentées que par des porte-drapeaux. Lisandro Lombardia est un celte de la région des Asturies en Espagne. Il est le directeur du festival.
On a dû faire un exercice de funambulisme pour sauver une édition qui soit à la fois résistante et aussi avec une idée de confiance à l'avenir. Nous sommes vigilants, mais nous avons hâte de commencer.
Et cela commence dès ce soir avec 3 concerts en invité d'honneur. Les Irlandais du groupe Perfect Friction avec leur cornemuse, leur violon, des instruments typiques de la musique celte.
Le festival interceltique de Lorient, quand même, c'est vraiment l'été.
Ah, ça, je vous le confirme, effectivement. Merci, c'était le journal de Florence Cohen. Il est 6h13.